Radio Campus Paris présente la séance du dimanche par Vitamine Ciné. Au programme aujourd'hui, de grands acteurs et de grandes actrices. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance du dimanche, toujours enregistrée à distance. Les cinémas n'ont toujours pas réouvert, mais cela ne nous a pas empêchés de continuer à parler de cinéma. Après avoir exploré des thèmes, des techniques et des polémiques, nous avons décidé pour cette cinquième émission de nous consacrer à la figure de l'acteur et de l'actrice. Ainsi, impossible de commencer cette séance du dimanche sans rendre hommage à Michel Piccoli, qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Visage familier de tout cinéphile, il fait partie de ces acteurs de théâtre qui ont débarqué sur grand écran à la fin des années 50, et tout comme ses compères Philippe Noiret, Jean Rochefort ou encore Jean-Pierre Mariel, son apparition à l'écran était souvent rassurante pour nous, spectateurs. Une figure paternelle de cinéma, qui semble avoir toujours eu 40 ans, et qui n'était ni vraiment une star, ni vraiment un éternel second rôle. Peut-être tout simplement un acteur, noble artisan de son métier, dont le visage a marqué tout un pan du cinéma français.
Madame, messieurs, bonsoir. C'est en compagnie de Michel Piccoli que nous allons passer une grande partie de la soirée.
Moi, je suis pour qu'on s'amuse, sapristi. Moi, je suis pour l'amour, Célestine. Pour l'amour fou.
C'est pour faire comme Dean Martin dans Some Game Running.
On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, craquent, on voit leur cul.
Qu'est-ce que tu fais?
Je te regarde.
Où étais-tu donc?
J'étais chez maman.
Il est près de 9h.
Vous prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais lorsque ma fiancée m'a laissé, il y a 10 ans, j'ai éprouvé le même petit agacement du côté du cœur.
Votre fiancée?
En deux phrases, je dirais une passion folle et une patience éternelle.
Merci Michel Piccoli.
Et comme d'habitude, je suis bien entouré, même si l'équipe de Vitamine Ciné est une fois de plus incomplète. Après l'avoir comparé à Agnès Varda, Hélène Ripley et Édouard Baird, j'avoue être à court d'idées, donc faisons de la simplicité. Bonsoir Adeline, comment vas-tu?
Bien et toi? Bonsoir.
Eh ben écoute, ça va, on continue de regarder des films. Et aussi présent un revenant, comparé fut un temps à Polanski puis à Godard. Comment vas-tu Lucas?
Ça va, merci.
Tout d'abord, c'était quoi pour vous, Michel Piccoli?
Quand on commençait à préparer cette émission, je comptais parler de Michel Piccoli parce que c'est un acteur que j'appréciais beaucoup, même si j'ai pas vu énormément de films dans lesquels il a joué. En même temps, il y en a tellement, mais rien que Le Mépris et Habemus Papam, pour moi, il offre là-dedans de véritables prestations de génie, je pense. Puis, toujours l'impression que c'était quelqu'un en retenue, en tout cas dans son jeu, dans la vraie vie je sais pas, mais dans son jeu en retenue et toujours au service de son réalisateur, jamais en train de bouffer non plus l'écran, le plan, mais toujours au service de l'intrigue et du film. Et voilà, pour moi c'était quand même une sacrée classe qu'il avait et un grand départ.
Je suis d'accord avec toi Lucas, c'est vrai qu'en fait Michel Piccoli, on peut considérer que c'est quelqu'un de très délicat. Souvent dans les films, il joue d'un rôle un peu d'intellectuel, un peu souvent du second rôle ou premier rôle, mais un rôle un peu toujours en retenue et en finesse. Et par contre, pour ce qui est de l'actualité et du fait qu'il soit mort cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est vrai que pour moi c'est un peu comme Michel Grand, le Grand.
Le Grand, oui.
Michel Legrand.
Michel Legrand, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais persuadée qu'il était déjà mort. Et ce qui est rigolo, par exemple, quand tu parles de Habemus Papam, c'est que je trouve qu'il a tellement changé physiquement et dans son rôle et en fait dans cette dernière partie de vie d'acteur où en fait on est plus vieux et donc un peu plus dans la vieillesse, etc. Bah, moi, je ne savais même pas que c'était lui. Je l'avais vu dans Vous n'avez encore rien vu de Alain René. Et c'est vrai qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était cet acteur-là, parce que je trouve qu'il y a eu vraiment un changement physique, un changement en fait dans ce qu'il représentait pour le cinéma français.
Moi, comme je disais, ouais, je trouve que pour Noiret, cette figure un peu rassurante, c'est cette génération qu'on n'a pas vu beaucoup de films de lui, mais on connaît forcément son visage. cette génération qui fumait d'énormes cigares lors de leur passage TV. Je vous conseille un très bon... sur YouTube, il y a un très bon gros plan de la RTS sur lui. Et en tant qu'acteur, donc j'ai en premier lieu pensé à une scène peu ragoûtante de la grande bouffe.
Ah oui.
Avant de me rappeler du très beau Les choses de la vie. Je sais pas si vous avez vu Les choses de la vie. Mais voilà, quoi, c'est quand même une figuration, quoi, comme j'ai dit. Les choses de la vie, c'est un très beau film que je vous conseille. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est un génial pape chez Nel Gometti. Et du coup, on a donc décidé, en entrée de cette émission, de discuter de La Grande Bouffe, de Marco Ferri. Donc, pour rappel, c'est l'histoire de quatre amis qui décident de s'enfermer dans une maison cossue dans le 16e arrondissement de Paris et qui décident de se suicider en bouffant, quoi, jusqu'à que mort s'en suive. Un suicide collectif par l'abondance de nourriture, un gavage volontaire qui est plus une critique de la société de consommation qu'une ode à la bonne chère. C'est le moyen pour quatre acteurs de venir briser leur image d'alors. On va en parler plus en détail. Je sais pas si vous l'avez aimé ou pas, mais la réception du film à sa sortie n'était pas des plus enthousiastes, comme vous allez pouvoir l'entendre dans un petit montage qu'on nous a concocté Adeline.
Motore, azione!
Scandale! Un scandale!
Dites-le pas qu'apprécie la nourriture!
Ubuesque, rabelaisien, nihiliste, scatologique, pornographique, trivial, insoutenable, cruel. Mais on parle aussi de grands morceaux de cinéma, œuvre d'un moraliste qui s'élève contre la société de consommation. On s'attend à beaucoup de réactions au cours de la première ce soir.
Dans la mesure où vous avez...
J'ai pas dit ça! Ça l'a dit! Un monsieur qui l'a mettu dans la page!
Vous avez dit que votre film était contre la société de consommation. Bon. Donc votre film a des prétentions politiques. Je venais de le nier en disant « Je fais uniquement des images ».
Vous faites la contre la consommation de la spier. Qu'est-ce que tu me dis? Et alors?
D'aucuns diraient scatologique plutôt qu'écologique, affaire de goût et de vocabulaire.
C'est une œuvre qui ne peut que profondément diviser les spectateurs, dans tous les cas, qui ne laisse pas indifférent.
C'est un attrape-chrétien formidable. Cela dit, ce film, je crois qu'il faudrait le sortir comme un grand film comique, et non pas comme un film à message.
Cette bouffe, pour moi, c'est le désir, l'envie que tout le monde maintenant a de prendre, de consommer.
Oui, on en crève tous un peu de la bouffe. Hein. Dans le monde, il y a ceux qui crèvent de ne pas avoir de bouffe et les autres qui crèvent d'avoir trop de bouffe.
Oh, c'est le début de l'hiver. Heureusement qu'on va bouffer pour se réchauffer.
Ah, voilà, le metteur hasard, scène, les Italiens ne sont pas là.
Ça n'a vraiment pas l'air d'être une équipe de cinéma, on dirait des Romanichel.
Marco! 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 C'est Philippe Poiret et moi, on est les premiers.
On est là les premiers, Marco. On est là nous. C'est nous deux les premiers.
Nous n'avons pas tous le même avis sur le film de Marco Ferri. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Adeline, par exemple?
Alors moi, en fait, je l'ai vu dans un contexte assez particulier parce que c'était pour préparer un concours d'école de cinéma. C'était à mon programme de l'oral. Et du coup, j'étais un peu, entre guillemets, obligée de voir le film. Et en fait, j'ai pour souvenir de l'avoir regardé en 3 fois, tellement j'avais trouvé ça dur et vraiment un peu gargantuesque. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais vraiment du mal à supporter le fait qu'il y ait toute cette bouffe, etc. Enfin, je trouvais que c'était trop. Et maintenant, quand j'y repense, je trouve qu'il y a vraiment des choses super intéressantes et je pense que c'est un film super intéressant. Mais personnellement, j'ai vraiment du mal avec l'excès, en fait, qui est présent tout le temps et je trouve que c'est dur. Voilà. Mais c'est un film intéressant.
Et toi, t'as...
Justement, je trouve ça très marrant que tu dises que tu aies dû le voir en trois parties parce que je pense que c'était aussi un peu son but à Ferreri, c'est-à-dire de pousser à l'excès, l'excès tout simplement, t'as dit le terme, de nous repousser dans nos retranchements, et surtout, enfin je sais pas si c'était son but, hein, mais en tout cas, après l'avoir vu, c'est possible, Et pour ce qui est des réactions de Cannes, évidemment que Cannes, on le sait, c'est un public très bourgeois, qui a peur d'être bousculé, mais qui aime quand même faire ces petits scandales chaque année. Hein. Cette année, c'était Make to My Love Intermezzo. Mmh. Il y a toujours eu cette relation-là de scandale et Cannes. Et bon, moi, perso, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Hein. Et au contraire de toi, je l'ai dévoré d'une traite comme les protagonistes ont dévoré bouffe et femmes aussi, il faut dire. Ils consomment beaucoup de nourriture, mais ils consomment aussi des femmes avec des 3 prostituées, je crois, et une...
maîtresse d'école.
Ouais, c'est ça, ouais. Et après, quand Nicolas, tu dis que c'est une critique de la société de consommation, ça, je sais pas non plus si c'est une volonté de l'auteur, ouais. Peut-être inconsciemment, je sais pas, de toute façon, c'est quelqu'un... Qui est provocateur,
mais comme assez politique.
Ouais, voilà, mais qui aime bien bouleverser, choquer à ce niveau-là. Moi, je trouve ça très réussi. Puis, enfin, c'est à un moment, c'est juste marrant, quoi. Quand tu vois Piccoli désolé, mais se chier dessus. Et enfin, moi, les paix et tout ça, c'est, enfin, quand c'est poussé à l'extrême comme ça, en fait, ça en devient marrant. En fait, quand une blague de paix dans un film normal, c'est un peu beauf. Mais quand c'est que ça, en fait, bah, ça en devient à force de répétition et. Et voilà, d'excès, ça en devient drôle, je trouve. Tu sais pas trop te placer, en fait, dans ce film.
Je trouve que c'est vraiment plaisir régressif, quoi, de voir ces 4 acteurs qui sont comme figure un peu de bourgeois, quoi, de charmeur, oui. Et tout, de se voir aller à tous ces excès en tout genre, et c'est ça, c'est...
Mastroianni, c'est... Mastroianni, c'est la classe incarnée, et il vient là-dedans, enfin, c'est fou.
Ouais, c'est assez intéressant, parce que quand tu parlais du scandale un peu de Cannes, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le film, il est présenté pour la sélection française, mais il est présenté avec la maman et la putain de Stache. Et en fait, on pourrait croire que bah, la maman et la putain, en fait, c'est aussi un film qui est un peu compliqué et en fait critique, etc., parce qu'il pose des questions sur l'adultère, etc. Mais en fait, le fait que ce soit des acteurs mainstream, comme Mastroianni, Noiret, Hugo Tonagdi, et même l'actrice...
Andrea
Ferrol, qui est vraiment une actrice un peu populaire, ça pose la question, en fait, c'est ça qui choque vraiment, c'est le fait que ce soit des acteurs aimés du public et des acteurs qui soient pas connus pour ces genres non plus de films contestataires, enfin, ils ont pas fait des films vraiment avec un côté vraiment politique. Après, pour revenir sur la politique, Marco Ferreri, il considère, oui, que c'est un film sur la surconsommation et choses comme ça. Mais pour autant, je crois qu'il a un peu surfé sur cette vague aussi, quand même. Mmh. On a dit que c'était... Enfin, on a vu en ce film une critique de la consommation. Et il a dit, eh oui, effectivement. Oui,
bah après, j'ai l'impression que c'est un peu la mode de l'époque, quoi, de ce milieu des années 70. Ces films un peu politiques, mais surtout... qui ose un peu tout, ça fait penser aussi aux Valseuses. Je crois que c'est un film que vous aimez bien aussi. Aux Valseuses ou à Salo, alors je l'ai pas vu.
Je l'ai vu pendant le confinement, ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu le.
C'est le même genre d'extrême.
C'est un peu différent, quoi.
Oui, bon, c'est beaucoup moins axé sur. Il y a pas du tout cet aspect comédie qu'on peut trouver dans La Grande Bouffe, même si certains n'ont pas du tout ri devant La Grande Bouffe, hein, mais moi, ça m'a un peu fait marrer quand même. Non, Salo, c'est encore plus, je pense. C'est un autre niveau encore.
Après, il y a un truc un peu bizarre dans La Grande Bouffe, c'est que les personnages se font appeler par les noms des acteurs.
Oui.
Ce qui crée un truc vraiment... moi, je trouve que c'est ça qui m'a peut-être gênée aussi dans le film. C'est le côté très réaliste. Et en même temps, du coup, un peu... Enfin, c'est un peu ça aussi qui m'a peut-être provoquée. Parce que pour moi, pour revenir sur Michel Piccoli, finalement, moi, Michel Piccoli, c'était quand même un peu celui des Demoiselles de Rochefort, un côté un peu séducteur et tout. Et sa mort, le fait qu'il pète, le fait qu'il. Enfin,
mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est. Sort de sa zone de confort.
Ça permet de casser leur image, quoi.
Et qu'en même temps, il y a Philippe Noiret qui dit vas-y, Michel, mange la purée, elle est bonne la purée et tout. Et c'est vraiment.
C'est tout ce qu'on veut voir au cinéma.
Oui, c'est ça qu'on demande à un acteur, quand même. C'est de ne pas jouer toujours les mêmes rôles et de varier les plaisirs. Et là, pour le coup, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Surtout plus avec Mastroianni d'ailleurs que Piccoli.
Oui, mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est par exemple si on regarde. Le making-of, il est présent. Enfin, c'est pas vraiment un making-of, mais il y a une équipe de tournage qui est venue pendant le tournage de La Grande Bouffe. Et c'est disponible sur YouTube, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois qu'il y a aussi cette atmosphère où tout le monde s'aimait bien sur le tournage aussi. Et du coup, c'est aussi un film de potes, entre potes, où en fait, il n'y a pas de limite, ils ont juste bien bouffé. Et le prétexte, et en fait ce qui est intéressant, voilà, c'est ça où je voulais en venir, c'est que Hugo Tognazzi dans le making-of dit qu'il ne connaît pas la fin, en fait. tous les acteurs sont venus faire le film parce que c'était Marco Ferreri et qu'ils étaient amis avec Marco Ferreri, sans savoir l'histoire. Ils savaient juste qu'ils allaient manger tous ensemble pendant l'hiver, quoi. Donc c'est un côté...
Je trouve ça, c'est un beau projet, quoi, pour ton âge, mais... Est-ce que d'après vous, ça les a mis en danger, ces acteurs, de tourner ce film ?
Moi, je trouve que la scène qui met le plus en danger les acteurs, c'est... Enfin, qui met le plus en danger un acteur, c'est Philippe Noiret et la bonne.
Oui.
Le début où il se fait sucer par la bonne, là, enfin, moi, je trouve que c'est le pire, quoi. Quand même, c'est quand même... C'est le moment où vraiment il peut se mettre en danger parce qu'il y a un peu un côté vicieux et... Alors qu'en fait, en soi, la bouffe, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un des sept péchés capitaux, ok, tu vois, mais c'est pas vu comme une vraie débauche, alors que les prostituées et, en fait, du coup, le sexe, comme tu disais, je trouve que c'est ça qui les a peut-être mis en danger. Mais pour autant, ils étaient quand même respectés et en milieu de carrière, quoi. Donc...
Et habile transition pour passer au thème suivant, sur les acteurs qui se mettent en danger. Même si là, danger, c'est un bien grand mot, c'est un danger surtout pour leur carrière. Les acteurs qui se mettent en danger, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire du cinéma, j'ai l'impression. On peut quitter un instant le danger immatériel de la carrière pour aller vers le danger plus physique. Le physique fait tout à fait partie du jeu de l'acteur, j'ai envie de dire. Parce que de Buster Keaton à Tom Cruise, en passant par Belmondo ou encore Jackie Chan, nombreux sont ceux qui mettent en avant le danger d'un rôle pour rendre leur film. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces mises en danger des acteurs ? Est-ce que c'est bien utile ? Quel type de mise en danger il y a ? Je sais que Lucas, par exemple, tu revois une certaine série de films avec un acteur qui aime bien se montrer en danger.
Tom Cruise, oui, dans Mission Impossible. Mm-hmm. Oui, sur la mise en danger physique, j'ai pas grand-chose à dire. J'aurais peut-être quelque chose d'autre à dire après, mais si vous voulez, sur une autre forme de mise en danger, mais si vous voulez développer sur le physique, allez-y, avec Belmondo et tout ça. Mais...
Bah... Sur les mises en danger, il y a le physique, mais il y a aussi la création. Enfin, le fait que, mais même psychologique ou des trucs comme ça, le fait que pour accéder à un rôle et accéder à un personnage, il faille se mettre en danger. Moi, ce que je trouve intéressant, et on l'a vu cette année avec le Joker, c'est qu'en fait, on considère qu'un rôle, il est bien fait quand l'acteur, il s'est mis physiquement en jeu pour le film. Et je pense que ça, c'est un peu lié à Taxi Driver ou les choses comme ça, ou en fait à Raging Bull, ou en fait
toute la question de l'acteur studio.
Ouais, c'est ça. Et en fait maintenant, moi je trouve que c'est un peu décevant, par exemple, que Christian Bale il soit réduit au fait qu'il puisse se transformer en ses personnages. Je trouve ça un peu chiant, en fait. Je trouve que un bon acteur, il a pas besoin de se mettre en danger physiquement pour incarner un bon rôle, en fait, parce que ça veut dire qu'il sait pas jouer en soi aussi, enfin que son physique il sert un peu à... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Nicolas.
Bah, je trouve pour certains rôles ça a marqué sur le cinéma, quoi. Oui, bien sûr, De Niro dans Raging Bull, Incorruptible, quand il prend 30 kilos pour se mettre dans la peau du personnage, c'est toute une idéologie donc, qui est dérivée de l'acteur studio et d'acteurs comme Marlon Brando qui puisait au fond d'eux des sentiments, des trucs très personnels pour se mettre à fond dans le rôle, qui même se mettait donc du coup en danger physique ou psychologique. Mais je pense que oui, maintenant, au bout d'un moment, c'est devoir se mettre, devoir montrer toute sa palette d'acteur, devoir prendre 50 kilos ou en perdre autant comme Christian Bale. Parfois, ça peut être un peu vain quand c'est que ça qui met en avant, quoi. Mmh. Comme pour le Joker,
où oui.
Montrer juste la folie en avant, au bout d'un moment, c'est pas non plus tout ce qu'on attend d'un acteur.
En fait, c'est devenu un argument... Pardon.
Vas-y. Non, vas-y, Nicolas. Vas-y, Luc.
C'est devenu un argument de promotion de film, le fait de dire que Christian Bale a pris 40 kilos pour le rôle, là jouer encore un truc avec Tom Hardy qui joue Al Capone, je crois. Oui, ok, ouais, c'est cool, mais bon, ça veut rien dire. Et c'est vraiment devenu de la pub de dire ça.
C'est
un petit article Combini qui dit que tel acteur a perdu. Enfin, ça sert à rien, quoi.
C'est que Joaquin Phoenix dans le Joker, à part un moment où on voit ses côtes et on est là, oh mon dieu, il est vraiment très maigre et tout, et je suis d'accord avec toi, c'est plus un argument où après l'acteur va dire, alors qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir tel niveau de... Enfin,
après, en effet, ça peut aider l'acteur à se mettre en condition et à rentrer dans le personnage, mais c'est pas non plus une garantie de bon jeu ou de quelque chose. Ouais. Mais au-delà de la mise en danger physique que Belmondo et Tom Cruise, voilà, avec parce qu'ils faisaient leur propre cascade, ont pu faire, il y a aussi, je crois, une mise en danger que je qualifierais de psychique, parce que Les acteurs sont des personnes qui reçoivent beaucoup de propositions de rôle pour des réalisateurs très variés. Et accepter de jouer pour, par exemple, Maurice Pialat ou accepter de jouer pour Fabien Antoniente, bah, c'est pas pareil. Avec tout le respect que j'ai pour Fabien Antoniente, qui, je le rappelle, a sorti le meilleur film de la décennie 2010.
All Inclusive.
Évidemment. Mais bon, Maurice Pialat est connu pour être un véritable tyran sur plateau de tournage. Il a traumatisé certains acteurs. On a un exemple pour le film Police, où, avec Depardieu et Sophie Marceau, et où en fait Depardieu et Maurice Pialat, bon, ils portaient pas trop dans leur cœur Sophie Marceau, ils se sont aperçus pendant le tournage. Sauf que Sophie Marceau, j'ai pas vu le film, mais apparemment elle a un rôle où elle est un peu perdue, où elle va facilement tomber en pleurs, etc. Et donc Maurice Pialat a essayé d'engendrer sur le plateau une haine contre elle. Et ce qui veut dire que, imaginez d'avoir tous les jours Depardieu et Pialat qui vous pourrissent la vie. Bon, pour ceux qui ne voient pas, Pialat, c'est aussi un beau bébé, hein, comme Depardieu. Enfin, ça doit être juste un enfer. Et du coup, des scènes où elle est en détresse, et ben en fait, elle est vraiment, elle, en tant que personne physique, elle est vraiment en détresse. Elle ne joue pas énormément la comédie. Et ça, il y a plein d'exemples comme ça chez Pialat, mais aussi chez d'autres cinéastes, hein, même Kubrick, qui fait jouer des dizaines et des dizaines de fois une même scène à un acteur pour l'épuiser, l'éprouver. Et en fait, c'est ça qui fait ressortir le meilleur de l'acteur. Et c'est aussi, on sait quand un acteur sait quand il accepte de jouer avec un tel réalisateur qui prend un risque à ce niveau-là et qui peut complètement péter le plomb, mais il sait aussi que c'est ce qui va lui permettre de sortir le meilleur de lui-même.
Ok, bah je pense que c'est le bon moment pour parler un peu du métier d'acteur et de la formation d'acteur avec notre invité. C'est la première fois qu'on a un invité pour l'émission, un certain Tom Le Potier. Donc je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de ce cher ami.
Tom Le Potier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, si on a choisi de faire une interview avec toi ce soir, c'est parce que tu es passé par le cours Florent. Or, le cours Florent, pour le grand public, c'est un peu la formation la plus connue pour ce qui est de la formation d'acteur.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça qu'on a choisi de parler un peu avec toi pour une émission qui est consacrée, on le rappelle, à l'actorat. Donc je te laisse t'introduire en quelques mots et puis après je commencerai à te poser quelques questions.
Ok, bah déjà merci à vous de m'accueillir, c'est cool. Je m'appelle Tom Le Potier, j'ai 24 ans, je suis né à Saint-Brieuc en Bretagne et je suis parti après l'obtention du baccalauréat faire les cours Florent dû à un stage d'accès lors de l'été 2000, je sais plus combien. Je suis sorti de l'école maintenant il y a un an et demi, j'ai fait 4 ans dans l'école.
T'as fait 4 ans, c'est ça?
Ouais, exactement. Bah
justement, explique-nous comment ça se passe concrètement le cours Florent au quotidien. Les cours, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a de la théorie mais de la pratique. Enfin,
exactement. Bah, on est beaucoup plus axé pratique, il y a beaucoup plus de pratique, voire il n'y a que ça. Donc c'est l'avantage de cette école où on passe très peu par la théorie, comme le cursus est censé être professionnel, enfin est professionnel. Et donc il y a deux manières pour y rentrer, il y a le cursus normal du cours Florent ou la classe libre. Moi j'ai fait le cursus normal, je n'ai pas eu l'obtention de la classe libre. La classe libre c'est là où la plupart des gens ont pu entendre que Édouard Baer, Pierre Ninet, enfin ce genre d'acteurs sont passés par cette formation-là. Mais il y a d'autres aussi acteurs plus ou moins connus, théâtre ou pas théâtre, qui sont passés par le cursus normal, et moi j'ai fait le cursus normal. Donc il y a 9 heures de cours obligatoires, et après, dû à ces 9 heures de cours obligatoires de théâtre, on peut choisir de faire des options du type improvisation, masque, clown, chant, danse, enfin tout ceci, et ça permet de compléter la formation au mieux, quoi.
Après, j'imagine que t'as aussi beaucoup de travail personnel, d'apprentissage de texte, de lecture et tout ça.
Tout à fait, ouais, parce que dans la scolarité, ce qui est bien, c'est qu'on passe par plusieurs échéances, comme ils disent, où en gros, c'est des sortes de préparation de travail, enfin de travaux à chaque semestre, en gros. Et donc, il y a beaucoup de textes à apprendre, on doit lire de notre côté, aller au cinéma, enfin se déplacer. Après, ça, c'est comme chacun il a envie par rapport à ses envies et ce qu'il a envie de travailler, mais ouais, il y a un travail surtout personnel. Moi j'ai dû beaucoup travailler ma première année parce que j'y connaissais rien, quoi. Je suis arrivé un peu complètement par hasard, donc ça m'a demandé un effort intellectuel de lire énormément. Je lisais très très peu, donc de me mettre dans le théâtre, de lire le théâtre, d'aller au théâtre, enfin tout ça quoi.
Et justement, tu disais que t'étais arrivé là un peu sans trop de
aucun bagage,
d'expérience et tout
ouais,
ça,
sans aucune expérience.
Et justement, ça peut paraître étonnant du coup que tu aies été sélectionné au cours Florent. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire déjà, de un, comment ça se passe? Comment on peut être pris au cours Florent? Ça en intéresse peut-être certains. Et puis, je sais aussi, on se connaît, qu'il y a une anecdote liée à ça. si tu veux bien nous la, si tu veux bien
Allez,
nous la dire.
Il a balancé la bombe. Mais je suis obligé de la raconter. En gros, c'est, pour rentrer, c'est pas compliqué. À Florent, maintenant, c'est plus comme avant où c'était vraiment ultra sélectif, même pour le cursus normal. J'ai eu la chance de passer à un stage d'accès. Dans les stages d'accès, on a le choix entre théâtre ou impro. Moi, j'avais choisi improvisation vu que je n'avais aucune expérience et je me suis dit, je vais pas m'enquiller à apprendre des textes vu que déjà j'avais du mal à retenir mes cours normalement, donc ça allait être compliqué. Et donc, ça s'est déroulé sur 7 jours. C'était un stage de 35 heures durant l'été. Et à la suite de ce stage, ils faisaient une sorte d'évaluation avec un professeur et un jury pour savoir si tu pouvais rentrer dans le cursus professionnel dès la première année. Et lors de cette évaluation, cette fameuse anecdote, il y avait une évaluation d'improvisation où en fait on met de la musique en permanence et il y a plusieurs thèmes et tu dois marcher dans l'espace et interagir avec les gens qui sont au plateau.
Les autres candidats, quoi.
Comment ?
Tu dois interagir avec les autres candidats.
Exactement, exactement. Et donc voilà, et donc gros cliché, il y a la musique d'Amélie Poulain de Yann Tiersen qui passe. Et là, il y avait une fille voilà, qui était dans le groupe avec qui on s'entendait bien depuis le début du stage. Et je me suis lancé dans ce qu'on appelle le bisou cinéma. Quoi. Donc voilà. Et donc ce qui était très drôle, c'est que ça a duré longtemps en plus cette scène et c'est bien passé. Et ce qui était très bizarre, c'est qu'à la sortie de ce baiser-là, en fait, tout le monde nous regardait. Donc, c'était, il y avait ce truc un peu gênant et ce truc de, oh, il s'est peut-être passé quelque chose, mais je sais pas dans quoi. Est-ce que c'était de la gêne pour les autres, pour nous, je sais pas.
Mais en tout cas, le jury, ça l'a séduit.
Ça l'a séduit.
Et est-ce que cette jeune femme a été prise, elle aussi, au cours Florent?
Oui, elle a été prise aussi.
Oui, heureusement.
Heureusement. Ouais, t'imagines, sinon j'aurais pas lâché l'anecdote, je pense, ça aurait été terrible.
Non, mais au-delà, voilà, on en rigole, au-delà du côté cocasse de l'anecdote, ça montre quand même que, moi, c'est un peu cliché, mais il faut tout tenter, et un peu n'en avoir rien à foutre, et pour être pris dans ce genre d'école, de toute façon.
Exactement. T'as complètement raison sur ça, parce que, je m'étais dit, de toute façon, j'avais rien à perdre dans ce stage-là parce que j'y connaissais vraiment rien et je me suis dit, va découvrir, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que j'avais jamais eu l'audace de tenter. Et dans cette semaine-là, ça m'a vraiment permis de me dire, mais en fait, vas-y, complètement, abandonne-toi, trompe-toi même, genre, ce que tu peux pas faire trop dans le cursus normal de l'école où là, clairement, l'échec est autorisé, quoi. Donc, c'était plaisant.
Bah écoute Tom, merci.
Merci
et puis,
à toi. Merci.
Maintenant si tu le veux bien, on va jouer ensemble avec les autres.
C'est parti. Allons-y.
Allez, c'est parti.
Je suis là pour gagner de toute façon.
Merci Tom pour cette interview. Et du coup, tu restes avec nous car après 2 mois d'absence, c'est les retours des jeux concoctés par Lucas. Lucas, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Eh bien, ce mois-ci, on va rester sur le thème des acteurs puisque je vous propose un jeu très très simple. Je vais vous donner le nom d'un acteur ou d'une actrice. Et vous allez devoir à tour de rôle me donner un film dans lequel cet acteur ou cette actrice a joué. Donc celui qui répète quelque chose qui a déjà été dit ou celui qui ne trouve plus de film est éliminé et le dernier survivant gagne la manche. Donc vous inquiétez pas, on va commencer avec du lourd, du très facile, puisqu'on commence avec Leonardo DiCaprio.
Juste en alors, dans quel sens
Justement. Honneur à l'invité, honneur à Tom. On enchaînera avec Adeline et Nicolas, tu finiras le tour.
Allez. Okay.
Donc Tom, nous t'écoutons. Un film sur DiCaprio.
Blanche-Neige.
DiCaprio.
Mec qui a rien compris. Blanche-Neige. Le Loup de Wall Street.
C'est bon.
Titanic.
C'est bon.
Inception.
C'est bon.
Shutter Island.
Évidemment.
Gilbert Grape.
Blood Diamond.
C'est bon. T'as dit quoi, Adine? J'ai pas entendu. Ah oui, ok, pardon, c'est bon. J'ai la liste devant moi, j'essaye un peu de. Blood Diamond, ok. Aviator.
Attrape-moi si tu peux.
Oui.
La plage.
Absolument.
Gatsby de Magnifique.
Bien joué.
Il était une fois Hollywood.
Once, ouais, ouais, oui. Oui, oui, c'est validé.
The Revenant.
The Revenant, oui.
Les Infiltrés.
Absolument, bien joué. Vous êtes bon, vous êtes bon.
Oui.
Ça commence à sécher du côté d'Adeline.
Ouais, le séquence est compliqué.
Encore quelques secondes.
Roméo plus Juliette, c'est pas lui.
Non. Si, il est dedans.
Si, si. Si.
Bravo.
À toi, Nicolas.
La plage.
Tu l'as déjà dit.
Déjà dit.
C'est toi qui l'as dit en plus.
Oh non. Oh non.
Ça commence quand même. Hein. Ouais.
Et donc ça se joue entre Tom et Adeline. Tom, une idée?
Je vais trouver.
Encore quelques secondes.
Faut pas la pression comme ça.
La musique,
je fais ce que je veux, c'est mon jeu. Et 3, 2, 1.
J'ai pas.
Terminé. Adeline remporte la bataille. Non, vous avez été bon. Je crois que vous n'avez pas dit Les Noces Rebelles, si?
C'était celui-là avec Winslet.
Le film de Clint Eastwood, G. Edgar.
Oui.
Bah oui.
Bon, après, des trucs plus anecdotiques, Basketball Diaries, L'Homme au Masque de Fer.
Ah, ouais.
Je crois que personne n'a dit Gangs of New York.
Non,
je cherchais le dernier Scorsese.
Ouais. Ouais, et sinon, vous avez été bon. Ah, Django Unchained, personne n'a dit Django. Ouais.
Ça, je savais pas si on l'avait déjà dit.
J'espère que vous allez. Enfin, c'est un peu claqué là, de pas dire Django, clairement.
Non, mais c'est dur en vrai de se remémorer comme ça. T'inquiète pas, je pense que les auditeurs ont aussi séché sur pas mal de trucs. Je sais pas si on a le temps pour une autre.
On a le temps pour un dernier.
Un dernier. Et pourquoi pas une dernière?
Allez.
Puisqu'on va jouer avec la bonne Catherine Deneuve. Là, il y a du. Y a beaucoup... C'est une grosse filmo quand même. Mais ouais. C'est assez dur, je trouve aussi. De... Donc, Tom, toujours à toi l'honneur. Catherine Deneuve.
Podane.
Oui.
Les parapluies Cherbourg.
Oui.
Les Demoiselles de Rochefort.
Oui.
La femme du métro.
Le dernier métro.
Allez, on l'a accepté tout à l'heure pour Adeline. Allez, c'est le dernier métro.
Les bien-aimés,
oui.
Viridiana, un film de Buñuel.
D'accord, je connaissais pas. Ouais. Mais bon, je te fais confiance. Oui, c'est bon.
Huit femmes,
bien joué.
Belle de jour.
Oui.
Tristana, autre film de Buñuel.
Ok, ça, toi tu devrais garder ces petits trucs là pour la fin. Hein, parce que...
T'inquiète.
Toi, Tom.
Je sèche déjà.
C'est dur en vrai. Mais... C'est dur en fait parce qu'elle tourne dans de très bons films. Mais qui sont pas non plus...
Et dans beaucoup de films, il y a le film avec Nekfeu là, c'était une daube en plus.
Ah oui.
Putain. Je sais même plus le titre. Non, je sais, je fais frère.
Je vois ce que tu dis, mais je vais pas le dire. Donc, Tom éliminé. À toi, Adeline.
Predator.
Ah, les Predator.
Okay. Mais je crois en anglais, c'est Predator, non?
Oui, mais on est en France, ouais. On parle français.
Désolé, je pense que je raconte n'importe quoi.
J'ai cité Bonne Pomme, un film sorti.
Oui, là. Avec de ton KD, comme ça.
Avec Depardieu, je crois.
L'idée, oui.
Potiche.
Comment?
Potiche,
je ne connais pas.
Oui.
C'est bon, c'est validé. François Ozon.
Tente
3.
Disco.
Deux.
Est-ce qu'elle joue dans Disco?
Est-ce qu'elle est dans le Disco? Elle n'est pas dans Disco.
Ah, non.
Je ne sais pas avec qui tu as
répondu. Ouais, non.
Bon, très rapidement, il y avait Dancer in the Dark.
Il y a La Vérité aussi qui est sortie.
Si, La Vérité qui vient de sortir de Corée.
Je l'ai vu en plus.
Même plus récemment, le film de Kairon, Mauvaise Herbe, il y avait Indochine aussi, de Régis Varnier. Bien. Bon, de toute façon, il y en a énormément, on ne va pas tous les citer. Mais franchement, ça c'était bien joué. Yes. Et Adeline, je crois que tu as remporté 2 manches.
Première fois que je gagnais un jeu dans cette
série. Bon, la prochaine fois, il nous faudra les titres exacts, hein, mais quand même, félicitations à toi.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, Tom.
Bah, merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, pour cette invitation.
Et de moi.
Merci à toi et à bientôt.
Et en espérant te voir à l'écran ou sur les planches très prochainement.
Ouais, retrouve-moi dans ce cam en train de jouer un serveur.
Oui, non mais très 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 gros rôle et allez le voir.
Ouais. On ira voir de suite.
Allez voir. Merci à vous en tout cas.
De rien, merci à toi.
Et tout de suite, on passe au second débat de l'émission.
Continuons à parler de la question des acteurs, c'est un peu le thème de l'émission. Donc avec une question un peu scolaire, mais incontournable pour commencer. Quels sont vos acteurs fétiches et en quoi sortent-ils du lot? Lucas, je sais que tu as quelques noms qui te tiennent à cœur.
Oui, j'ai quelques noms, mais après j'ai du mal quand même à établir des top 10, machin, ou à me faire un panthéon de mes acteurs préférés, parce que je sais que ce que je vais dire aujourd'hui, bah, le lendemain, ce sera pas les mêmes. Mais j'ai quand même essayé de construire un truc, et j'ai établi, on va dire, trois catégories. La première, ce serait un peu mes plaisirs coupables. C'est-à-dire, et vous en avez aussi certainement, ces acteurs qu'on adore, mais on sait que c'est pas forcément des immenses acteurs indépassables, mais c'est juste qu'on aime bien voir leur gueule, tout simplement, dans un film. Et c'est juste un capital sympathie, et à un moment, c'est juste humain d'aimer ou de détester des acteurs sans raison. Là, je peux citer quelques noms pêle-mêle, mais voilà, il y en a évidemment plein. Mais moi, j'adore Jay Gyllenhaal, Vincent Lacoste, Nanni Moretti. Bon, Nanni Moretti joue dans tous ses films, mais ses films qui sont excellents. Mais l'acteur en lui-même, je trouve aussi, enfin, j'adore aussi. Adèle Exarchopoulos. Enfin, vous voyez, c'est quand même des très très bons acteurs. Mais on peut pas dire encore que ce soit des mythes. Enfin, surtout pour Vincent Lacoste et Exarchopoulos qui sont très jeunes. Mais c'est juste, à un moment, t'aimes juste bien les voir et peu importe la qualité du film, voilà. Alors, la deuxième catégorie d'acteurs, ce serait ceux qui se démarquent par leur choix et qui se construisent une véritable filmographie, parce que c'est aussi ça un bon acteur, c'est pas qu'un acteur qui joue bien, c'est un acteur qui choisit bien ses films. Bon, là on a bien sûr du Alain Delon, même s'il y a du déchet, hein, mais...
Alain Delon, ouais, sur son carrière, c'est un bon acteur.
Oui, comme beaucoup d'acteurs.
Astérix, Mission Cléopâtre, aux Jeux Olympiques.
Ouais,
Et ses films avec BHL aussi, Le Jour et la Nuit.
Ouais, il y a une actrice, j'ai retapé un coup d'œil dans sa filmographie, et franchement c'est assez ouf, c'est Juliette Binoche.
Ouais.
Elle a quand même, entre autres, tourné pour Godard, Haneke, Carax, Téchiné et Bruno Dumont récemment dans Maloute, que je conseille. Mm-hmm. Bon, après, il y a évidemment tous ces acteurs américains des années 30, 40, 50, les Cary Grant, James Stewart. Bon, ça, évidemment, on ne peut que aimer. Et là aussi, en termes de filmographie, c'est quand même assez solide, surtout James Stewart. Mm. Et puis aussi, il y a un truc sur lequel j'aimerais venir, c'est sur nos petits beaux gosses américains, là, les musclores américains.
Les meilleurs.
Bah ouais, mais...
Arnold Stallone.
Ah non, du tout. Ah non, c'est pas ça que je... Non, même pas. Non, mais tu vois, il y a quelques années, quand je m'intéressais au cinéma, mais sans plus, quelqu'un m'avait dit, pour moi, le meilleur acteur de tous les temps, c'est Tom Cruise. Et je lui avais rionné. Parce que pour moi, Tom Cruise, c'était un peu l'acteur, bon, ok, bon, il est beau gosse, il joue un peu dans les films de beauf... Mais bon, ouais, ça va, quoi.
Et en fait,
bah, toute sa carrière, en fait, pas du tout. Déjà, il choisit très bien ses rôles. Il a quand même tourné pour Spielberg plusieurs fois, Paul Thomas Anderson, Brian De Palma, Michael Mann et surtout Stanley Kubrick, ce qui le démarque de beaucoup d'autres acteurs encore en vie et d'acteurs connus. Mais...
Même chez Scorsese, j'ai envie de dire, pour placer le petit Marty.
Ah oui,
avec
oui.
Paul Newman, dans La Couleur de l'Argent.
Ah oui, moi je l'ai pas vu, ok. Et dans le même genre, il y a Brad Pitt, qui est lui, il a une carrière, surtout ces dernières années, c'est on va dire 15 dernières années. C'est assez... Enfin, je peux te citer des films, hein, mais il y a bon... Babel... comment Oui, The Tree of Life, oui, ouais, bah, bien sûr, Burn After Reading, Les Deux Tarantino et très récemment Ad Astra. Et vraiment, Brad Pitt, voilà, évidemment, lui aussi, beau gosse, musclé, machin, mais... T'as vraiment l'impression dans ces films qu'il sait où il faut se mettre, qu'il comprend ce qu'on lui demande.
Même s'il a une tendance à Alain Delon quand même, hein, moi je trouve.
Comment ça?
Quand même, des fois, il a joué dans des films qui le mettaient vraiment en danger et qui n'étaient pas très intéressants. Et je trouve qu'en fait...
Ah oui, il y a du déchet.
Ouais, en fait, il y a beaucoup de déchets, je trouve, chez Brad Pitt.
Beaucoup.
En fait, moi je trouve que plus que Tom Cruise, dans le sens où Tom Cruise, il y a un côté un peu plus organisé. Mais alors que des fois, Brad Pitt, moi je trouve qu'il a fait des films. Après, par exemple, moi, Babel, je n'aime pas du tout ce film. Donc, pour moi, je mets, par exemple, Babel dans les déchets. Donc,
ah oui.
Peut-être pas d'accord.
Ouais, je comprends que tu puisses ne pas aimer, mais c'est pas du tout un déchet, Babel. Enfin,
c'est vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Et je l'ai vu deux fois pour m'assurer que j'aimais vraiment pas. Ouais, non.
Bon, en tout cas,
après, c'est des acteurs qui sont aussi producteurs.
Oui, en plus, Pitt, en plus, et très bon producteur, Cruise, Brad Pitt.
Et Tom Cruise, c'est presque tellement un contrôle freak, enfin tellement il est en contrôle de sa carrière que on peut même considérer que c'est un peu un auteur, quoi, au même titre qu'un réalisateur.
Ouais. Je trouve que
tellement
c'est...
il est investi, quoi.
C'est un côté, il a un côté un peu fascinant. Je trouve Tom Cruise, même dans des missions impossibles, des choses comme ça, en fait, c'est un côté tellement lisse et enfin c'est un peu passionnant, je trouve.
Plus c'est que sûrement lié à sa vie personnelle qui, on le sait, est très, très louche aussi, mais bon.
Non, mais
c'est sûrement aussi pour ça que c'est un excellent acteur.
Oui, je trouve que ça rajoute un peu un mythe, alors que bon, il y a beaucoup d'acteurs qui se font partie de sectes et pour autant, on n'est pas.
Oui, non, mais il faut.
Non, mais je trouve qu'il a.
Très...
C'est un peu.
Et puis bon, je vais finir, désolé, je parle beaucoup, mais. Donc la troisième catégorie, ce serait celle des acteurs qui ont fait des performances de dingue et qui vous ont marqué, qui vous ont bouleversé à une ou à plusieurs reprises. Et je te cite très vite fait Isabelle Huppert dans Elle de Verhoeven. Isabelle Huppert qui rentre évidemment aussi dans la deuxième catégorie parce que la filmographie de Isabelle Huppert, c'est quelque chose aussi.
C'est vachement impressionnant.
Moi j'adore aussi Nicole Kidman avec trois films, Eyes Wide Shut, Les Autres et Dogville, le film de Lars von Trier que vraiment je vous conseille. Et puis bon, j'avais prévu de parler de Michel Piccoli, mais du coup allez, je vais dire Antonio Banderas aussi, mais voilà, je le dis sur le coup parce que dans La Pielle qui habite au, il est fantastique. Enfin,
Il est très touchant, et même dans le dernier Almodovar, je trouve qu'il est.
Ouais, que
il
j'ai
est
vu
ultra touchant.
Ouais.
Dans Douleur et gloire, c'est vraiment beau.
Et je terminerai par là. Il y a un acteur qui rentre dans les trois catégories. Peut-être le meilleur acteur de tous les temps. Ouais,
je pense.
Ouais, je pense aussi. C'est Gérard. C'est Depardieu.
C'est
GG. C'est GG, mais c'est. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un autour de ce plateau qui émet des doutes, non?
Mais alors, figure-toi que je suis en train de regarder toute la filmographie de Gérard Depardieu en ce moment parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais vu vraiment de film avec Gérard Depardieu à part les Astérix, en fait.
Ah oui.
Et du coup, je suis en train de tout regarder, mais alors tout sans aucune restriction. Et en fait, je suis vachement touchée par ce personnage, je crois.
De toute façon, déjà, capital sympathie monstrueux, enfin... Filmo de ouf, et puis surtout, le mec, à chaque plan, il bouffe ses interlocuteurs, ses partenaires.
Il est vraiment très fort, et même en fait à l'international. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a quand même un peu une petite carrière à l'international, notamment avec Peter Weir.
En Russie. Peter Weir.
Oui, Peter Weir.
Non, même en Russie, il tourne 6 films par an en Russie en ce moment.
Oui, en fait, c'est ça, c'est que. Et puis je trouve qu'en fait, il a un très beau jeu. J'ai regardé Je préfère qu'on reste amis. Alors, c'est pas un grand film, mais c'est de Toledano et de Nakache, je pense, avec Jean-Paul Rouve. Et en fait, c'était assez touchant parce qu'il joue un pauvre type qui cherche l'amour, etc. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment beau dans ce film. Il y a un côté. C'est un acteur qui est très beau et je m'étais rendu compte que j'avais vu plus de films avec son fils qu'avec lui, finalement, avant. Voilà.
Et c'est ça, mais Depardieu, c'est tellement un monstre, même physiquement, quoi. Même dans les pires films, dès qu'il entre dans le plan, il y a un truc qui change.
C'est ça. Tu vois plus que lui, tu n'écoutes plus que lui.
C'est fou. Vous avez un film fétiche, un film qui vous vient, où la performance de Depardieu vous a marqué
Là, comme ça, je te dirais 1900 de Bertolucci. Ouais. Et d'ailleurs, il est avec Robert De Niro.
Qui est le plus grand acteur de tous les temps, faut-il le rappeler.
Ah oui, tu nous en reparleras tout à l'heure. Mais dans ce film, d'ailleurs, dans 1900, il y a quand même un plan où une jeune femme... tient dans ses deux mains, dans la main droite, le pénis de Robert De Niro et dans la main gauche, celui de Depardieu, dans un même plan. C'est quand même assez... Rien que pour ça, le film dure 5 heures, mais rien que pour ce plan, ça vaut le coup d'œil.
Et le film est incroyable aussi. Des assassinats de chats à coups de tête.
Oh là là.
C'est plus recommandable.
C'est sûr que c'était une autre époque. Hein, mais juste pour finir, renseignez-vous un peu sur l'enfance et la jeunesse de Depardieu.
Sur ça la prostitution
ça peut expliquer certaines choses. De sombres affaires d'air d'autoroute et de camionneurs. Hein, je suis pas sûr qu'on puisse en parler ici.
Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement le fait de l'enfance de Depardieu, etc., ça participe un peu comme Tom Cruise au mythe. Je trouve qu'il y a tout un mythe de Depardieu et en fait je repensais aussi pendant les Césars, il est monté sur scène quand sa fille a eu un César de la meilleure actrice Et en fait, il s'était arrangé, parce qu'en fait, je pense qu'il est bien pote avec un peu tout le monde. Et il s'était un peu arrangé pour rentrer sur scène au moment où elle avait le César. Mais il y avait un truc assez beau, je trouvais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il est vachement touchant, et il y a toute une histoire derrière lui qui est chouette. Et toi, Nicolas, c'est quoi ton...
Chouette, c'est le mot, mais...
Moi, je l'aime. Enfin, il y a un truc un peu romanesque, un peu comme Tom Cruise, quoi.
Ah oui, bah c'est dramatique, oui.
Et moi, je vous conseille de voir Mon Oncle d'Amérique, d'Al Arené.
Moi, je vous conseille de voir Sous le soleil de Satan.
Ah oui, de Pierre.
Depardieu est vraiment... On a l'impression qu'il est habité, qu'il est en transe pendant tous les films. Et du coup, moi, pour citer
toi,
des
acteurs... Toi, tes acteurs.
J'en ai noté beaucoup, mais en gras, j'en ai mis 3, donc... ce cher Depardieu, ainsi que les deux stars du cinéma français, où les deux sont encore vivants, ont nourri une amitié, une fausse amitié, un rapport amour-haine, c'est Delon et Belmondo, deux faces d'une même pièce, qui ont illuminé le cinéma français, quoi, qu'on fait des parmi les plus grands films qui soient notre cinéma national.
Ouais.
Et voilà, pareil, les deux, quand ils entrent dans le cadre, tout change, quoi. Ils n'ont même pas besoin de jouer, quoi. Même Delon ne joue pas, il a juste à être là.
Non, c'est Delon, clair. Delon, de toute façon, oui. Vu la
Delon
gueule.
Et Delon, il est là. Voilà, c'est ça. Il est incroyable. Tandis que Bebel joue, mais il joue très bien. Et on a tous envie d'être le pote de Bebel, quoi.
Ah oui, bah c'est clair. Bah, des deux, hein.
Ouais, ouais.
Mais les deux ont. Bebel a l'air plus sympa. En tout cas, j'ai vu une interview de l'autre jour de Delon. Ça avait quand même l'air d'une sacrée relation d'amitié. Mais. Enfin, t'as raison, c'est un peu un entre-deux. Parce qu'évidemment, il y avait de la concurrence pendant leur période forte d'acteur, on va dire. Mais tu sens qu'il y a un respect mutuel immense entre les deux. Enfin,
c'est ça.
Mais oui, t'as raison. De toute façon, de légende indépassable. Enfin, si, t'es jamais indépassable, mais en tout cas.
Mais un acteur français d'aujourd'hui, quoi.
Bah, c'est pas. C'est
de la nouvelle génération, il y a moins de monstres.
Moi, je trouve qu'il y a.
T'as pas de Jean Gabin ou de Ventura, mais c'est pas pareil.
Oui, en fait, déjà, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas la même vision des stars, entre guillemets, hommes, masculines. Enfin, il y a moins ce côté viril, etc. Mais moi, je trouve que maintenant, il y a Almadric. Vraiment, je suis vraiment une grande fan de Almadric. Désolée.
Oui, oui.
De Mathieu Almadric. Je trouve que vraiment, et même quand, dans un film, je sais pas qui joue dedans et qu'il arrive dans ce film, je suis vraiment surprise et je suis vraiment saisie. Je trouve qu'il a un jeu magnifique, qu'il est vraiment très fort en réalisateur, en acteur. Et je trouve que c'est vraiment un peu... Et moi, en acteur français aussi, j'aime beaucoup Michel Blanc. Qui bon, a fait des déchets, mais qui, je trouve, l'acteur de la partie splendide qui s'en est le mieux sorti, d'un point de vue de filmotaire, etc. Et je trouve qu'il a un jeu vraiment très touchant, un peu à la Depardieu.
Il est toujours sympathique, en fait, Michel Blanc.
Et qu'il peut faire, bah, du coup, dans Tenue de soirée ou des choses comme ça, qu'il peut faire vraiment des choses très très belles. Et après, en actrice, il y a Meryl Streep, qui pour moi en fait est un peu un géant en fait des années 80 et qu'on a un peu oublié dans le sens où elle a vraiment fait des films des très beaux films et c'est vraiment une actrice assez impressionnante notamment bah, des films avec Clint Eastwood sur la route de Madison ou des choses comme ça et après Suzanne Sarandon que j'aime beaucoup voilà et voilà désolée
et en tant qu'actrice en France aussi, j'ai envie de dire que l'autre monstre du cinéma français qui est là depuis des décennies aux côtés de Depardieu, c'est Catherine Deneuve, qui elle aussi continue à tourner et qui a fait parmi... J'ai découvert les films de Jacques Demy là, il y a quelques jours.
Ouais.
Et depuis sa jeunesse, voilà, Deneuve est impeccable. Elle n'a pas fait que des bons films, elle n'a pas fait que des grands rôles, mais elle a aussi tourné avec les plus grands, et même avec David Bowie dans Les Prédateurs de Tony Scott. Et donc voilà, ben, j'ai l'impression qu'on a encore plein de noms à citer, mais c'est déjà l'heure de passer à la playlist du dimanche. Et je crois d'ailleurs que, transition toute faite, Adeline, tu vas nous parler d'un certain film musical.
Exactement, on va continuer sur Catherine Deneuve avec les Demoiselles de Rochefort.
Savez-vous chanter, Maître Bide?
Payé pour jouer du piano, pas pour raconter sa vie.
One, two, three!
Are you doing something dirty?
La disparition récente de Michel Piccoli ainsi que la mise à disposition de tous les films de Jacques Demy sur Netflix m'amène aujourd'hui à vous faire la playlist d'un seul et unique film, Les Demoiselles de Rochefort. Sorti en 1967, Les Demoiselles de Rochefort, dont la bande originale a été composée par Michel Legrand, ne cesse aujourd'hui de faire figure de référence dans le monde du cinéma. Cette référence, on la retrouve par exemple dans le film de Damien Chazelle, La La Land, avec la musique Épilogue. qui reprend la mélodie principale du duo de chansons qui unit Monsieur Dame, Simon, à la mère des jumelles, Yvonne.
Pas mal ce que je vais vous dire, mais lorsque ma fiancée m'a laissé, il y a 10 ans, j'ai éprouvé le même petit agacement du côté du cœur.
Votre fiancée?
C'est pour elle, voyez-vous, que j'ai décidé de quitter Paris. Il y a un mois, je me suis installé ici afin de retrouver quelques souvenirs.
Pourquoi? Elle habite Rochefort?
Non. Elle vit au Mexique. Mais nous nous sommes connus ici. Oh, c'est une histoire peu commune pour un homme comme moi, en somme, bien ordinaire.
Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. Il la choquait, je crois, alors sans préambule. Un soir, elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux, depuis 10 ans, n'ont plus croisé ses yeux. Elle m'avait appris, dans le plus doux moment, qu'elle attendait de moi l'heureux événement qui enorgueillit l'homme et anoblit la femme. Mais elle refusait le nom de Madame Dame.
Pourtant, je... Vous venez tout d'abord d'écouter la mélodie utilisée pour La La Land, puis la musique de Simon, interprétée par Michel Piccoli, qui fait écho à une autre musique, celle chantée par la mère des jumelles, Yvonne. Car il faut noter que tout va de pair dans ce film. Des sœurs jumelles aux âmes sœurs, tous doivent trouver ici leur double, même en musique.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois ?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
La recherche du double est également accompagnée d'une profonde réflexion sur le cinéma, et notamment le cinéma de Jacques Demy. Le film est notamment profondément marqué par la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas sans rappeler les parapluies de Cherbourg. Mais une musique fait également écho à un autre film de Demy, Lola, avec le titre de la femme coupée en morceaux.
Bien aux danseuses des folies bergères, premier prix de beauté et de danse légère. Elle avait 60 ans, puis connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola.
Ce titre n'est pas la seule référence à la trilogie de Jacques Demy. Lola, les parapluies de Cherbourg et Model Shop. Puisque Yvonne, comme Lola, invente qu'elle est partie vivre en Amérique pour suivre son amour pour Monsieur Dame. Pour conclure, je vous laisse avec la plus violente des ruptures, celle d'une femme qui préfère un marin pour mari qu'un forain pour amant.
Oh, ne pleurniche pas, ça ne sert à rien. Elles sont idiotes. On les aime, ça encore c'est rien. Mais on leur offre un travail en or et elles nous laissent tomber la veille d'une représentation. Et pour qui ? Des marins.
Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis.
Les marins font de mauvais maris,
mais les marins font de bons amants.
Marins, amis, amants ou maris, les marins sont toujours absents.
Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses se tromper en ce monde des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. En ce monde fané au cœur de nos deux solitudes.
Si les roses de notre amour ne fleurissent plus qu'en épine, et si tu préfères l'algue marine, cela ne vaut pas même un discours. Veux-tu pour ça que je t'assassine, ou veux-tu que je meure d'amour?
Tu avais tout pour me séduire, le nez, la bouche, le front, les cheveux. Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu d'amour pour toi mourir. Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu pour toi mourir d'amour.
Si mes beaux yeux, chère marquise,
Eh ben merci Adeline pour ta playlist du dimanche.
Avec plaisir.
Ça me donne envie d'encore écouter ces musiques que j'écoute en boucle depuis quelques jours pour ne rien vous cacher. Et donc il nous reste à peine une poignée de minutes pour faire des recommandations. Donc peut-être vous avez des films sur les acteurs déjà, un film comme ça à conseiller sur les acteurs.
Sur le cinéma et sur les acteurs, il y a deux films. Enfin, moi, j'avais noté deux films. Le premier français, qui n'étonnera personne, mais c'est La Nuit américaine de François Truffaut. Qui je trouvais génial et qui apprend beaucoup de choses sur le cinéma. Enfin, moi, pour moi, ça a été très formateur comme film, même si maintenant c'est un peu vieillot compte tenu de la façon dont on fait le cinéma maintenant, mais bon, voilà. Et le second film, c'est un film de Cronenberg qui s'appelle Map to the Star. Que j'ai personnellement pas spécialement aimé, mais qui, je trouve, est intéressant sur le monde des acteurs dans les années 2000. Voilà.
Et sur Hollywood, on a aussi Mulholland Drive, évidemment.
Ah oui.
Plus qu'un film sur des acteurs, qu'un film sur... Puis un film.
Un film génial.
Une expérience, voilà. Et sinon, on a aussi Chantant sous la pluie, j'ai envie de citer, qui est un très beau film. Lucas, toi, t'as peut-être...
Oui, un film sur les acteurs. Bon, je vais une fois de plus parler d'Arnaud Desplechin, parce qu'il faut parler de lui, parce que c'est un peu sous-côté, mais un des plus grands réalisateurs français pour moi. Et il a fait un film qui s'appelle Esther Kahn, c'est sur une jeune... une jeune demoiselle un peu paumée à Londres à la fin du 19e, qui un jour va dans un théâtre et c'est une révélation, et depuis elle veut devenir actrice. Et donc c'est un film qui va montrer comment on peut devenir acteur en fait. Et le propos de ce film, et ça plairait un peu à Depardieu je pense, c'est dire que t'as beau apprendre avec des cours, de la théorie et tout ça, si t'as pas un minimum de vécu à côté de ça, tu pourras jamais transcender une scène, et voilà. Donc à ce niveau-là, c'est hyper intéressant.
Ben, je pense que vraiment Depardieu, même quand il est pas là dans les films, on parle de lui, donc cette spéciale acteur aura un peu débordé sur Depardieu, mais c'est tout à fait normal car c'est notre GG à tous. Et la séance du dimanche, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc merci de nous avoir écoutés, et en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur le site de Radio Campus Paris, ainsi qu'en podcast sur Spotify et sur toutes les plateformes dédiées. Rendez-vous le 28 juin pour une ultime émission, et à bientôt!
Chier!